Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Pour qu'un personnage m'intéresse, il faut que je découvre une faille dans sa vie, écrit Dominique Fernandez dans la préface de Prestige et Infamie, un volume de la collection Bouquins paru chez Robert Laffont en septembre 2010. On y trouve quatre de ses romans, réunis, déjà publiés, mais qui illustrent sa fascination pour les personnages qui ont connu ce douloureux passage du prestige à l'infamie. Vous pourrez lire Signor Giovanni, Dans la main de l'ange, Le dernier des Médicis et La course à l'abîme. Un choix de l'écrivain et un choix d'éditeur, en résonance après le succès de son enquête biographique publiée en 2009 consacrée à son père, Ramon, critique littéraire reconnu de l'entre-deux-guerres au fait de la gloire, qui a sombré dans l'alcool et ses compromis avec les milieux de la collaboration. Des choix intellectuels et politiques et un choix de vie qui ont hanté son fils, l'écrivain Dominique Fernandez. En notre compagnie aujourd'hui, Dominique Fernandez, de l'Académie française, pour nous parler de quatre destins, quatre personnages broyés par leur volonté d'autodestruction et de subversion sociale, quatre hommes ayant vécu à des époques complètement différentes. Alors il s'agit de l'historien d'art du XVIIIe siècle Joachim Johann Winckelmann, de Pasolini, de Jean Gaston, le dernier des Médicis, et puis du Caravage, mort en 1610. Dominique Fernandez, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi ces hommes failles, c'est ainsi que vous les qualifiez dans la préface, vous sont-ils si chers?
Vous savez, tous mes livres, depuis que j'écris, il y a très longtemps, je voulais les intituler « Prestige et infamie ». C'est mon sujet. Et moi, je trouvais ça trop lourd pour un seul livre. C'est un peu « Guerre et paix ».
Voilà, c'est ça.
Mais alors, quand M. Barré, qui dirige la collection Bouquins, m'a proposé de réunir plusieurs de mes romans, j'ai réfléchi et je lui ai proposé ces quatre-là, qui ont pour sujet « Prestige et infamie ». Je me suis dit, là, pour quatre, pour plus de 1000 pages, on peut mettre un titre aussi important. Voilà. Mais vous avez tout dit dans votre introduction. Moi, j'étais très marqué par l'histoire de mon père, Ramon Fernandez, qui était donc un grand critique, un grand intellectuel, entre les deux guerres, un pilier de la Nouvelle Revue française, comité de lecture Gallimard, enfin, prix Femina, enfin, une grande personnalité de la vie littéraire. Ami de Proust, de Gide, jusqu'à Marguerite Duras à la fin de sa vie, enfin, qui était vraiment au centre de la vie littéraire de Paris. Et cet homme, qui était anglophile par ailleurs, et qui n'avait rien à voir avec l'Allemagne, tout d'un coup, et qui était de gauche au départ, il était socialiste même, il a pris la carte du Parti socialiste en 1926, il a évolué vers l'extrême droite, il est devenu fasciste avant-guerre, et bon, ça on peut comprendre encore, mais il est devenu collabo pendant la guerre, il a écrit dans les journaux contrôlés par donc, les nazis, il est allé en Allemagne en 1941 avec les intellectuels, invité par Goebbels, il n'a pas commis d'actes répréhensibles, au contraire, il a sauver des juifs, c'est très très bizarre, enfin, c'est son histoire, mais enfin, n'empêche qu'il a fait une erreur colossale, on s'est rendu compte, il s'est mis à boire, il est mort alcoolique et désespéré. Et donc, il a fait cette courbe d'ascension et de chute. Tu sais, il y a un vers de Corneille que j'ai mis quelque part en exergue, et monté sur le fait, il aspire à descendre. C'est ce type de personnage, moi, qui m'intéresse.
Il y a une très belle préface de la republication de ces quatre romans. Une préface où, en toute transparence, avec aussi cette honnêteté qui caractérise votre écriture, vous portez justement un regard sur ces romans que vous avez publiés autrefois, dans les années 80, pour le plus récent 2003. Un regard qui est une sorte d'introspection sur justement la figure de ce père que vous venez d'évoquer dans votre œuvre. C'est très intéressant pour le lecteur.
Quand M. Barré m'a demandé ça, j'ai dit, enfin, lui, tous les deux, il faut faire une préface, évidemment. C'est ça qui est intéressant. Enfin, j'ai relu ses livres. Et j'ai réfléchi, j'ai trouvé l'unité, parce que quand je les écrivais, je ne pensais pas à mon père du tout. C'est vraiment très profond. Quand j'écrivais sur Winckelmann ou sur Pasolini, c'est des sujets très importants en eux-mêmes. Mais j'ai compris après coup, mais j'ai écrit l'an dernier cette préface, j'ai compris qu'au fond, dans l'inconscient, ce qui me faisait m'intéresser à ces personnages, c'est cette ressemblance entre leur caractère et leur courbe, leur destin et ceux de mon père. Mais c'est après coup. C'est important. Quand j'écrivais, je ne pensais pas du tout à ça. Je pensais à Winckelmann ou des années Médicis, mais je me suis demandé pourquoi seulement ce type de personnage m'intéresse. Et j'ai compris que c'était pour cette raison que j'ai dit.
Il y a quelque chose presque amusant, j'allais dire, c'est cette littérature de jeunesse que vous lisiez,
oui,
où il y a même là déjà en germe, pour vous, un personnage qui vous fascine et qui va vous poursuivre,
oui,
avant l'histoire de votre père.
Quand j'avais 10 ans, je lisais Gustave Aimard. C'était un romancier pour un indien, mais très bon, hein, qu'on oublie aujourd'hui à tort, parce que c'est vraiment très bien. Il y avait comme ça un personnage qui s'appelait Don Ramon, d'ailleurs.
C'est
pas par
un hasard ou...
Non, mais quand j'étais enfant, il est certain
c'est extraordinaire.
Que ça me fascinait parce qu'il s'appelait Ramon, forcément. Et c'était pendant la guerre, donc mon père était déjà collabo. Et donc il y a une histoire d'Indien où justement il finit comme une faute, enfin tout ça. Et tout ça s'est emmêlé. Ce qui est intéressant, je crois, c'est que tout ça était inconscient. Parce que si ça avait été conscient, ça aurait été des schémas, des grilles, vous voyez, des choses que la psychanalyse fait. C'est sec, ça ne vit pas. Moi, c'est vraiment, je me suis identifié à des personnages, mais sans savoir pourquoi. Maintenant, je le sais, mais beaucoup plus tard.
Est-ce que vous pensez que cette figure de votre père si présente va s'éloigner de...
Je crois pas, non, parce que vous savez, j'ai écrit 800 pages, là, je crois qu'on en avait parlé, et j'ai toujours pas compris ce mystère de cette autodestruction. Et il savait très bien, hein, parce que depuis que j'écris ce livre, j'ai trouvé d'autres documents,
oui,
on en voit.
Oui, même dans la préface, vous racontez,
oui,
l'histoire de la bière, que
voilà,
vous ignoriez.
Non, puis des lecteurs aussi,
et
il y a un monsieur Laffut, qui est un écrivain connu, à l'époque, qui était un ami de mon père, qui a tenu son journal en 1942. Mon père lui dit, il rapporte, hein. Lui c'est un gaulliste, alors il n'est pas suspect. Et mon père lui dit, oh je suis fichu, je suis désespéré, c'est en 42. Donc il savait très bien que c'est contraire même à son idéal. Son idéal était anglophile. Puis, enfin, quand on est amé de Proust, de Gide, les nazis, cette idéologie sommaire. Mon père n'était pas du tout antisémite. Il a fait l'éloge de Bergson, vous savez, quand il est mort, alors que c'était interdit par les Allemands. Il a fait un livre sur Proust pendant la guerre. Proust qui était le contraire de ce que les... homosexuels, juifs, décadents, enfin tout ce que vomissait le régime Pétain et autres. Donc il résistait à sa façon, mais il avait quand même sa carte du PPF, le parti de Doriot, et il écrivait dans les journaux, La Gerbe, je ne sais plus. Enfin...
Alors, vous avez même expliqué dans cette préface, là, dans De Prestige et Infamie, que la structure d'un de vos romans, c'est, je crois, pour le dernier des Médicis, reprend,
oui,
même un peu les cinq temps forts du parcours,
oui,
de votre propre père.
Par exemple, il y a une chose,
inconsciemment,
que, une chose quand même très, très curieuse, ça prouve que ça... Le dernier Médicis, donc, c'est le dernier grand-duc qui est mort en 1737 et sans descendance. Donc, le duché est passé à une autre famille, comme à l'époque. Ce n'était pas les peuples qui avaient les nations, c'était les familles. C'est passé aux Lorraines. Donc, les Médicis, c'est fini en 1737. Et ce dernier a pris à contre-pied la tradition Médicis. C'est-à-dire, au lieu de cultiver les arts, de vivre dans le beau, il faisait des orgies, des débauches, il s'était crapuleux, il s'entourait de voyous. Enfin, c'est un personnage tout à fait extraordinaire. Mais alors, j'ai imaginé, quand j'écrivais le roman, qu'il se saoulait à la bière. Et ce qui m'a étonné, c'est que j'ai découvert que, après, en lisant...
C'est un livre que vous avez écrit il y a 16 ans. Hein,
il y a 16 ans, en plus.
Voilà. 94, c'était donc...
Ah non, en 2006. Ah, peut-être, oui. Oui, mais enfin, j'y pensais avant. Il est peut-être paru en 94.
Oui, enfin, parce qu'il y a des...
Mmh. Bon. Et j'ai découvert en relisant ou en lisant Céleste Albaret, la gouvernante de Proust, que mon père avait initié Proust à la bière pendant la Grande Guerre. Ils allaient chez Lippe et après Proust faisait livrer des tonneaux de bière fraîche. Et mon père, quand il habitait rue Saint-Benoît, c'est-à-dire tout près du Lippe, la rue en face, il buvait beaucoup de bière. Il était familier du Lippe, qui était spécialiste de bière. Alors pourquoi est-ce que j'ai imaginé? Je savais un peu, mais c'est très troublant ces coïncidences, vous voyez, de l'inconscient et du... J'ai imaginé que ce grand-duc faisait ses orgies à la bière, alors qu'on n'a aucune preuve. Et c'est quand même un rappel direct des souleries de mon père. Enfin, une préfiguration, si vous voulez.
Vous évoquiez votre roman Le Dernier des Médicis, avec ce personnage sulfureux, effectivement, de Jean Gaston.
Vraiment, j'insiste, parce que dans toutes les histoires des Médicis, Dieu sait s'il y en a, on ne parle jamais de lui.
Alors, ce que j'ai trouvé assez passionnant, parce que toutes ces histoires, finalement, fascinent, en même temps, c'est que là, vous avez utilisé les sources d'un médecin donc, qui a suivi...
Non, ça,
ça c'est complètement inventé.
Invention.
Ah,
non.
Génial.
Non.
Oh, mais j'ai marché à fond, moi.
Non, mais tant mieux. Non, moi, ce qui m'a frappé, c'est que je connais bien
Florence.
Je croyais
qu'on avait vraiment journal de ce médecin.
Non,
et que vous
tout.
En étiez inspiré.
Non, mais c'est une fiction que j'ai fait
pour
Rino aussi.
D'accord.
Non, c'est pas ça du tout. Le roman est né, je visitais la chapelle Médicis à Florence.
Oui, je vois très bien.
Il y a les six grands ducs, vous savez, dans du marbre, magnifique. Or, il y en a eu sept. Je dis, où est le septième? Le septième, c'est donc Gian Gastone, qui était tellement scandaleux qu'on ne l'a pas mis dans la grande chapelle. Il est enterré dans une espèce de cave au sous-sol, sous une simple dalle. On a rejeté. Il n'y a pas une statue de Gian Gastone, alors que toutes les villes de Toscane sont hérissées de Côme, enfin, Laurent, etc.
Laurent magnifique, etc.
Il a été exclu, expulsé de la mémoire. Et chez les historiens, passé sous silence. J'ai trouvé chez Dumas 10 lignes où on dit qu'il faisait des débauches honteuses. C'est tout ce qu'on dit. Alors ça m'a évidemment fasciné, parce qu'un grand-duc, chef d'État, à l'époque où la Toscane était un État important, qui a régné 30 ans, qu'on évacue totalement comme ça, c'est
comme
quand même assez
extraordinaire. Comme un pharaon.
Voilà, c'est un passage tellement honteux, tellement affreux pour les gens. Et aussi, ça va être quelqu'un d'extraordinaire, ça. Quel culot, enfin, quel de...
Oui, et le médecin qui...
Alors, moi,
vous l'avez transposé
oui,
avec...
Oui, moi j'ai toujours un personnage, j'ai toujours un scribe dans mes romans. C'est pas l'héros qui parle, c'est quelqu'un qui est un témoin. Donc là, j'ai mis un médecin et qui raconte, mais enfin, c'est moi, quoi.
Bien sûr. Et c'est l'occasion de faire parler Montesquieu avec Gian Gastone.
Non, parce que ce qui est intéressant,
c'est très intéressant.
Ce que vous me dites, c'est que c'est pas du tout un imbécile, c'est
alors,
pas un dégénéré.
Alors, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure,
c'est
pour reprendre le fil, c'est que vous avez l'air de... Enfin, le fameux médecin éprouve quand même de la sympathie pour ce personnage
qui est
sulfureux, scandaleux.
Il est important de dire que c'est pas un dégénéré.
Hors norme pour lui.
S'il faisait ça, c'est pas parce que c'était un abruti. Il était très intelligent. Et Montesquieu, qui a été reçu par lui quand il est passé à Florence, dit que c'est un homme très intelligent. Il avait une politique sur les blés, je ne sais plus. Enfin, c'était une tête. C'est pas un crétin, je veux dire. C'est pas un type. Ce serait pas intéressant. C'est pas un cas pathologique du tout. C'est un choix. Il a choisi de renier. Il en avait marre, si je puis dire, de ses héritages Médicis, les beaux-arts, les statues, les tableaux, le beau, tout ça. Il a choisi la voie crapuleuse. Et ça, c'est passionnant, ça.
C'est à travers le récit de ce médecin qui, au soir de sa vie, décide de raconter l'histoire de ce grand-duc, parce que justement, il n'était pas que ça. Il a presque une sympathie pour ce...
Mais oui, mais il est très bon. Moi aussi, j'ai une sympathie énorme.
Pour ce personnage.
J'ai une sympathie énorme. Dans la mesure, c'est l'anticonvention. Tous les autres étaient très conventionnels. Son père, Côme III, était bigot, conventionnel, tout ça. On s'ennuyait à Florence. C'est devenu une espèce de truc dévotion, tout ça. Et sa femme était partie, d'ailleurs, avec un bohémien, la grande duchesse, avec un tzigane, avec un rhum. Et le fils, lui, il s'est rébellé de cette façon. Il a pris la couronne, enfin, c'est pas une couronne, mais enfin, il a pris le grand-duché, mais il a rejeté en l'air tout ça.
Dans le premier des romans, là, qui s'appelle...
Signor Giovanni.
J'aime
beaucoup ce roman.
Qui est le plus court, le plus bref.
C'est une commande, c'est une collection chez Ballan, je crois, qui a disparu, l'éditeur aussi. D'ailleurs, il fallait faire 80 feuillets. Donc, c'est assez intéressant aussi de faire un exercice. Donc, c'est une longue nouvelle. Enfin, alors, j'ai pris Winckelmann, qui était un archéologue allemand, très important, qui a vécu en Italie, qui est devenu secrétaire du cardinal Albani, secrétaire de la Bibliothèque Vaticane, et qui a redécouvert l'art grec, en quelque sorte. Parce qu'on avait oublié. Pendant le moment baroque, on avait oublié. C'est l'époque où on découvrait Pompéi, Herculanum. Il a fait la première histoire de l'art grec. Et c'est lui qui a commencé ce qu'on appelle le néoclassicisme, c'est-à-dire le retour au beau idéal des Grecs et des Romains.
C'est la référence en la
considérable.
Matière.
C'était le maître de Canova et indirectement de David, tout ce grand mouvement du fin 18e, début 19e.
C'était un personnage puissant aussi. Parce
qu'il était secrétaire d'un des cardinaux les plus importants, secrétaire de la Vaticane. On ne peut pas le comparer, il n'y a plus de ces personnages, mais c'était un historien d'art qui avait une position officielle.
Et enfin,
comme
s'il était
le directeur de la BNF, enfin, vous voyez, c'était quelqu'un comme ça, d'important.
Alors ce que j'ignorais, c'est que toutes les œuvres d'art découvertes, on devait avoir l'accord du pape avant de les vendre, et que ça passait d'abord entre
ses
mains.
Oui, parce que les Roms appartenaient au pape à l'époque.
C'était lui qui occupait cette place.
Le pape était un souverain temporel, il possédait Rome et jusqu'à Bologne, donc tout ce qui était là lui appartenait.
Alors, ce personnage vous a lui aussi fasciné?
Ah oui, à cause de sa mort.
À cause de sa mort.
Parce que donc, ce personnage très officiel, beau idéal, comme ça, en fait, en revenant de Vienne à Rome, il s'est arrêté à Trieste. C'est l'étape normale, le port sur l'Adriatique, qui appartenait à l'Autriche à l'époque. Et il descend dans une auberge de troisième ordre, sous un faux nom. Ça, c'est vrai.
Ça, c'est la première chose qui vous a intrigué.
Il signe Signor Giovanni.
Vous avez trouvé les pièces du procès.
Oui, ça,
là, vous les avez.
Ça, c'est les vrais
prêts. Très... Voilà.
Donc, Signor Giovanni, c'est déjà bizarre, quand même, pour un personnage officiel. Imaginez le directeur de la BNF qui, sous un faux nom, descend dans une gargote. C'est amusant. Et puis, il rencontre là un type qui s'appelle Arcangeli.
Ah, ça, c'est un prénom que vous lui avez donné?
Non, son vrai nom.
C'est le vrai nom, en
c'est
plus.
C'est le vrai nom. Il était grêlé, la petite vérole. Et on ne sait pas ce qui se passe, mais cet Arcangeli assassine Winckelmann.
Probablement pour ses médailles.
Alors, la version officielle, prude, c'est que pour lui voler ses médailles. Alors moi, j'ai repris l'enquête, parce que je me suis dit, c'est bizarre quand même. Pourquoi ce faux nom? Pourquoi tout ça? Et à mon avis, c'est un crime de mœurs, comme Pasolini, comme Caravage. Enfin, ça, c'est mon idée. Ça, c'est pas prouvé. Mais les pièces du procès ne m'ont absolument pas convaincu. Je pense que Signor Giovanni était double aussi. Il était fils d'un cordonnier allemand. Hein. Lui aussi a fait une ascension énorme. Et là, comme les autres personnages, il n'a pas supporté d'être au sommet de sa carrière. Et du coup, il s'est encanaillé avec ce bonhomme. Ça a mal fini. Au fond, c'est ce qu'il souhaitait. Obscurément, bien sûr.
Cette fin, vous dites que c'est le personnage de Gian Gaston et qu'il a le plus souhaité volontairement cette
Gian Gaston, lui, il est parti d'en haut, lui. Il n'est pas à monter, puisqu'il était grand-duc.
Oui.
Donc lui, il n'y a pas d'ascension. Tandis que les autres, Caravage, Pasolini et Winckelmann, sont des gens qui sont partis de rien, qui étaient de familles pauvres, inconnues, qui ont conquis la gloire. Gian Gaston, lui, il n'avait qu'à descendre. C'est un cas un peu à part. Mais enfin, c'est difficile quand on est grand-duc. Il y a des devoirs. Donc il faut vraiment être très fort pour briser tout ce carcan du pouvoir.
Extrait du roman La course à l'abîme de Dominique Fernandez. Chapitre 1. Mort sans sépulture. Mon corps, on ne l'a jamais retrouvé. Jeté dans la mer, brûlé sur la plage, mangé par les fourmis, dévoré par les loups, ravi par les aigles, veillé et emporté par quelque âme pieuse, enseveli en cachette puis oublié comme un chien. Les voyous que j'ai si souvent pour les peindre déguisés en anges sont-ils venus me chercher pour m'enlever au ciel? Un autre, à ma place, se lamenterait, privé de sépulture, abandonné sur le sable, condamné à errer dans les limbes, avec les enfants morts sans baptême et les pécheurs privés de rédemption. Moi, au contraire, je m'estime fortuné de n'avoir ni tombeau ni dalle funéraire. Il me plaît d'échapper aux pèlerinages et aux anniversaires. Je ne veux pas de commémoration posthume, après avoir été honni et persécuté de mon vivant. Ce fatras dommage, gardez-le pour tous ceux que la renommée publique, les honneurs, la réussite mondaine ont favorisé. Ma mort n'ayant pas été moins mystérieuse que ma vie, l'énigme de ma destinée reste entière. Quel équilibre trouvez-vous quand vous construisez un roman entre justement ces sources historiques, votre imagination, tous ces ressorts psychologiques, ces enquêtes psychologiques que vous mettez en valeur?
D'abord, mon credo, si vous voulez, c'est que seul le romancier peut écrire l'histoire. Les historiens ont besoin de preuves écrites, enfin des archives, des choses prouvées. Dans une vie, surtout à cette époque, il y a énormément de mystères qu'on ne peut pas prouver. Il n'y a jamais de preuves. Même Pasolini, on ne sait pas exactement comment il est mort. Et pourtant, c'est notre époque. Alors là, au XVIIIe siècle, donc je prends un personnage qui est entouré de mystères. Hein. Il y a des personnages qui ne pourraient pas fournir des personnages romanesques. Par exemple, Mozart, on sait heure par heure ce qu'il faisait. Donc ça serait du délayage, des biographies délayées, c'est pas ça. Moi, je prends un personnage entouré de mystères. Gian Gaston, on ne sait presque rien. Winckelmann, on ne sait presque rien. Alors je m'informe pour ne pas faire du gratuit, pas déraper, pas dire n'importe quoi. Je prends des garde-fous qui sont tout ce qu'on peut savoir. Et à partir de là, c'est l'imagination qui reconstitue, et je pense que c'est moi qui dis le vrai.
Et puis c'est aussi très très documenté, il y a beaucoup d'érudition à chaque page.
Non, pas tellement, parce qu'il n'y a pas grand-chose.
Et les quatre personnages là sont homosexuels, c'est aussi un moyen pour le lecteur, de justement au fil des pages, de découvrir cette histoire de l'homosexualité.
Oui, parce qu'il
travers,
se trouve que... Ça,
ne serait-ce que la façon dont elle était désignée à travers les différents siècles qu'abordent les quatre romans.
Oui, mais je précise que ce n'est pas parce qu'ils sont homosexuels, qui est un de mes thèmes favoris, comme vous savez, que je les ai choisis.
Ah non, bien sûr, c'est pas ça que je
veux dire.
Dire
très souvent, l'homosexuel est déjà un marginal. Donc il est toujours plus intéressant que quelqu'un qui est dans le rang, si vous voulez. À cette époque, c'était vraiment être marginal. Et il est évident que Winckelmann, qui était homosexuel, il ne disait pas qu'il était à Rome, près du pape et près du cardinal. On veut le savoir, mais enfin, il ne le disait pas. C'était une chose clandestine. Donc c'est pour ça qu'il descendait dans une auberge, sous un faux nom. Ça se fait encore maintenant, vous savez, il y a des personnages officiels qui ont des faux noms. Vous vous rappelez l'adjoint de la mairie de Toulon, qui était le péniste. Il y a eu un scandale. La journée, il était conseiller municipal, enfin très comme ça, cravaté. Puis le soir, il s'habillait en femme. Il se faisait appeler Victoria, je crois, un nom comme ça. Et puis, il a été assassiné aussi, à 14h du matin, dans son escalier, là aussi, on imagine. Donc ça, c'était un topos, si vous voulez, psychologique de l'homosexuel à l'époque de la répression. Donc, on avait un dehors officiel très convenable, respectable, et puis en douce, on allait s'encanailler.
Vous parlez quand même de la maladie. On a l'impression aussi que parfois, on saute dans le contemporain, dans le 21e siècle, ou au 20e siècle, au moment où vous avez écrit ces romans. On ne peut pas s'empêcher de penser à l'épidémie du sida ou des choses comme ça. Même lecture de certaines pages, au moment où vous abordez les maladies, la vérole, on y pense.
Oui, mais je pense que le lecteur y pense. Je pense que parmi ceux qui sont morts du sida, surtout au moment de l'épidémie des intellectuels vers les années 80-90, il y en a qui ont choisi le risque. Vous ne pouvez pas savoir s'ils attraperaient ou pas, mais je pense que ça faisait partie de leur logique. Ils n'ont pas voulu se préserver, ils voulaient y aller. Ça faisait partie de peut-être d'héroïsme suicidaire qui est le propre de ces gens, d'autodestruction. Allons-y. Ça, je suis sûr qu'on pourrait... Enfin, je ne vais pas faire de nom là, mais je pense à des gens qui ont fait exprès, en quelque sorte, de s'exposer au risque.
Le roman, c'est un moyen de parler quand même des choses contemporaines
pour vous,
quand même, là, parce que ça saute aux yeux quand même.
Oui, mais surtout Jane Gaston, il me semble.
Et puis, il y a ces fins aussi, la fin du roman qui se clôt là, de façon magistrale sur aujourd'hui.
Bien sûr, mais vous savez, tout se tient, rien ne change. Je veux dire, la psychologie de Winckelmann ou de Jane Gaston pourrait s'appliquer. Vous avez des cas de grandes carrières politiques. On pourrait trouver dans les 20 dernières années des gens qui se sont cassés la figure, qui ont fait une faute énorme, qui a coûté leur carrière. Ce n'est pas par hasard non plus. C'est que malgré leur succès, ils aspiraient obscurément à l'autodestruction. Dans tous les domaines, le banquier qui faillite, tout ça, si on cherche bien, on trouve toujours un motif psychologique puissant.
Vous aviez de la sympathie, de la fascination pour ces personnages. Si ces personnages n'ont pas ces failles fortes...
Ils ne m'intéressent pas du tout.
Ça ne vous intéresse pas?
Ah non, moi je ne peux pas faire un roman sur Jean-Paul Sartre ou sur... Parce que c'est bon, ils font des carrières, ils sont magnifiques, mais je veux dire, il n'y a pas de failles en eux. Il y a des personnages qui sont anti-romanesques, qui meurent dans leur lit, qui sont très respectables, qu'on admire, mais moi ça ne m'intéresse pas. Moi, il faut à la fois qu'il y ait la gloire ou une grande notoriété, enfin des personnages en vue, et qui d'un coup, ils ne supportent plus cette statue de gloire, d'être en vue, et il se précipite. J'ai intitulé « Course à l'abîme », le roman sur Caravage. Là aussi, ça pourrait être un titre de tous mes livres. C'est toujours une course à l'abîme, ce qui est contradictoire. Et puis tout d'un coup, on court pour échapper à l'abîme. Mes personnages, eux, ils courent vers l'abîme. Mais encore une fois, c'est l'histoire de mon père. Pourquoi tout d'un coup, il s'est mis nazi, pro-nazi, en sachant que c'était une faute et une erreur, il le savait. Et il l'a fait quand même.
Il y a cette conscience qu'ont ces personnages de leur propre autodestruction.
Ils ont une conscience
très bien mise en valeur dans les quatre romans.
C'est pas des accidents, c'est pas par hasard. C'est vraiment une conscience. Et dans Jane Gaston, c'est vraiment un choix. Parce que lui, il avait tout. Du grand-duc, il possédait la plus belle ville du monde. Et c'était un choix de sordide, de crapuleux.
Même si c'est quelque chose qui vous fascine depuis toujours, pour certains de ses romans, il y en a qui ont maturé des dizaines d'années.
Ah oui.
Ça, c'est étonnant comment ça se passe dans la tête d'un écrivain.
Je pense que tout écrivain, à 20 ans, il a tous ses livres en lui. Sans le savoir, évidemment. À 20 ans, après, selon une occasion ou une autre, ça réveille en lui, ça suscite un livre. Moi, je peux vous dire, par exemple, on rappelle très bien pour...
Pour la course à l'abîme.
Non, c'est surtout dans la main de l'ange. Donc un jour, le 2 novembre 1975, un journaliste italien de Paris, un ami me téléphone, me dit, tu sais, on a trouvé le corps de Pasolini tué sur une plage. On ne sait rien, dis-moi quelque chose pour mon journal. Et je lui ai dit, ça a été imprimé, on peut vérifier, je lui ai dit, ça ne m'étonne pas. Ça aurait pu arriver 20 ans avant ou 20 ans après, il a été tué par un gigolo de rencontre. Et le lendemain, ou le soir même, on a trouvé Pelosi, le gigolo. Parce que je connaissais Pasolini, je connaissais ses mœurs. Il draguait dans les endroits durs, des types qui volent, qui tuent au besoin, ce qui lui est arrivé, le pauvre. Je ne dis pas qu'il cherchait ça, mais ça lui convenait.
C'était
tellement.
C'était inscrit, presque.
Il a décrit dans un poème. Donc, et aussitôt, le lendemain, je me suis mis à écrire le livre, j'y ai pensé. J'aurais jamais pu l'écrire sans cette mort. Parce que cette mort scellait son destin, en faisait une tragédie grecque, vous voyez, comme Oedipe, comme Électre. Enfin, c'est vraiment... Ce qui cherchait obscurément.
Et vous achevez ce roman par « L'artiste pouvait ainsi se dire sauvé. Dans aucun de mes livres, dans aucun de mes films, je ne m'étais montré à la hauteur de mes ambitions. Mais maintenant, je m'en allais tranquille, ayant organisé dans chaque détail ma cérémonie funèbre et signé ma seule œuvre assurée de survivre à l'oubli. »
Mais je crois. Et si on parle d'ailleurs tellement de Pasolini, à mon avis, ce n'est pas un très grand créateur. C'était un animateur formidable, un contestataire, mais ses livres, ses films, enfin c'est comme, c'est pas...
Vous avez traduit ses poèmes aussi.
Oui, ses poèmes, c'est pas Ungaretti, c'est pas Montal, c'est pas Fellini, c'est pas Visconti. Cette mort lui a apporté quelque chose d'extraordinaire. Je ne veux pas le diminuer comme ça, mais je veux dire que ce qui avait exceptionnel en lui, c'est cette course à la mort. Alors que c'est un homme très vital. C'est pas du tout un décadent. Hein. Moi, j'ai bien connu. Il faisait du karaté. C'était un type très vigoureux. Mais
vous l'avez rencontré quand, la première fois?
Vous savez, j'ai vécu à Rome dans les années 60. Donc, je ne sais plus la première fois, mais on le voyait. Vous savez, les écrivains se voyaient tous à l'époque. Il y avait Moravia, il y avait Bassani, il y avait Carlo Levi. On déjeunait presque chaque semaine dans les trattorie à l'époque. Ça coûtait pas cher. Les Italiens mangent très peu chez eux. Et on allait au bistrot, quoi. Et Pasolini ne parlait pas beaucoup, il était là, comme ça. Mais ce n'est pas du tout décadent, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est un homme très très vigoureux. Il n'aurait pas voulu mourir, mais en même temps, il aspirait à la mort. C'est ça, cette contradiction qui est intéressante.
Vous-même, quel est votre rapport à la mort?
Moi, mes livres m'ont aidé justement à surmonter tout ça. Mais quand j'étais jeune, j'étais très suicidaire. D'ailleurs, j'ai fait ma thèse sur Pavese, qui est un écrivain italien, qui s'est suicidé.
L'échec de Pavese.
Qui s'est suicidé à 42 ans, en 1950, et... Ça m'a un peu purgé. C'est un type qui, depuis l'âge de 15 ans, ne pensait qu'au suicide. Et finalement, il l'a accompli à 42 ans. C'est un très grand écrivain aussi. Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Parce que si, quand même...
Dans l'échec de Pavese, c'est là, lit-on, que vous avez mis au point ce genre psychobiographique.
Oui, c'est-à-dire étudier l'inconscient. Moi, je crois que les œuvres et les actes d'un homme, d'une femme, sont... Il y a une partie raisonnée, rationnelle, et une partie inconsciente. Dans tout ce qu'on fait, même quand on se marie, on croit aimer... Telle femme, bon, on l'aime peut-être, mais on l'épouse aussi par rapport aux parents, à soi-même, etc. C'est très bon.
C'est mensonge par rapport à nous-mêmes. Ça.
Oui, c'est même pas un mensonge. Il n'y a pas de vérité comme ça, nette. Et les actes manqués, Freud a étudié. On oublie ses clés, c'est pas par hasard. On oublie quelque chose d'important. C'est passionnant. Quand vous rentrez là-dedans, c'est.
Ça vous a accompagné, une pratique psychanalytique?
Ah non,
non,
bah,
jamais.
Ça, jamais. Ça, c'est la mort de l'écrivain, le créateur. Moi, c'est mes livres, ma psychanalyse. La thérapie, c'est pour ça que j'écris. Quand j'ai fini un livre, je recommence un autre parce que. Non, si vous faites psychanalyser, le type vous met à plat. D'ailleurs, il détruit les gens sont détruits après. Alors, ça vaut pour des malades peut-être, des gens qui ne peuvent pas vivre. Je ne sais pas, des gens qui ne peuvent pas traverser une place, ou bien qui ne mangent plus, ou qui mangent trop. Mais quand vous êtes sain d'esprit, tous vos problèmes, il ne faut surtout pas se confier à un psychanalyste. C'est l'imagination, c'est se vivre sous des identités de rechange, se projeter dans d'autres personnages qui vous sortent de soi, qui vous aident à vivre.
Donc c'est le moteur de votre écriture, ah oui, et oui. Par-dessus tout. Donc quel est le personnage, justement, parmi ces personnages qui ont oscillé entre prestige et infamie, que vous préférez par rapport à tous ceux que vous avez écrits? Vous allez me dire tous, bien sûr.
Ah non, moi, il y en a un que je préfère.
Mais il y en a un que vous préférez quand même?
Alors. Oui, bah, c'est Caravage.
Alors,
parce que Pasolini, bon, c'est intéressant. Winckelmann, c'est comme un historien. Le grand-duc, il était grand-duc. Caravage,
le
c'est un peintre.
Un artiste.
Qui est parti de rien, qui était arrivé à Rome, qui a fait une carrière fulgurante, autodidacte. Il ne savait pas dessiner, il ne savait peut-être pas écrire, on n'a rien de lui. Son premier tableau est déjà un chef-d'œuvre. Il est remarqué par un cardinal. À 29 ans, on lui commande les histoires de Saint-Matthieu à Rome. C'est prestigieux. Et sa cote, là, on ne sait rien de sa vie, mais on a les contrats. Donc, combien il était payé? Donc, c'est le mieux payé des peintres à Rome. Rome, qui était la capitale mondiale de la peinture. C'est comme si disait le cinéaste le mieux payé d'Hollywood. Et après, donc à 30 ans, il commence à faire des tableaux tellement provocants qu'on les lui refuse. C'est le commande la mort de la Vierge, par exemple. Ce grand tableau, c'était un sujet classique, etc. Et qu'est-ce qu'il nous prend? Il prend comme modèle une prostituée enceinte qu'on avait repêchée dans le Tibre. Donc, il était coupable de 3 crimes. Prostitution, enfant en dehors du mariage, évidemment, et suicide, qui était un crime à l'époque pour l'Église. Et donc, c'est un tableau bouleversant. C'est une femme usée par la vie. Enfin, c'est le désespoir. C'est le contraire de la Vierge. Alors, les prêtres qui avaient commandé le tableau, aussitôt disent, mais il n'est pas question qu'on prenne ça. Et il y avait un jeune peintre qui achetait des tableaux pour son maître, le duc de Mantoue, un jeune homme de 20 ans, qui dit « J'achète pour mon maître ». Ce jeune homme, c'était Rubens, inconnu encore. Donc le tableau est allé à Mantoue, et de là, après, il est arrivé au Louvre, finalement, il est au Louvre, là en face. C'est un des plus beaux tableaux dans la galerie. C'est un tableau bouleversant, parce que c'est une pauvre femme, femme qui s'est jetée de désespoir dans le Tibre, et c'est bouleversant, parce que c'est l'humanité, voilà, c'est le contraire de la Vierge glorieuse, un peu ennuyeuse, qu'on voit chez tous les peintres de la Renaissance. C'est la femme, la misère quotidienne, c'est extraordinaire comme tableau. Évidemment, c'était impossible d'être accepté par des gens d'église. Donc, à partir de ce moment-là, on voit sa cote redescendre, et finalement, lui-même devient violent, il a des rixes, et finalement, il tue quelqu'un dans la rue, on ne sait pas non plus. Est-ce que c'était un meurtre, un duel, une rixe? Il s'enfuit et à partir de ce moment-là, il tombe dans l'abîme.
La fameuse course à l'abîme.
Voilà.
Le Caravage, votre première rencontre avec le Caravage, c'est tout jeune aussi, c'est en 52.
Les tableaux.
Ah oui, vous
venez
évoquiez
de comment je travaille, mais moi.
La
je...
Villa Médicis où vous avez.
Ah non, j'étais pas, non, non.
Vous
il n'y avait pas d'écrivain à mon époque.
Ah, j'ai cru que vous y étiez.
Non, j'étais dans le jury à un moment, j'ai habité, mais c'est Malraux qui a mis des écrivains,
d'accord,
bien après que j'ai fini.
Oui, 52, effectivement, c'est. D'accord.
Oui, non, non. Non, mais j'ai été très souvent, j'ai habité, tout ça.
C'est là que vous avez vu aussi des tableaux de Caravage.
Mais là,
enfin, depuis toujours.
Rome, entre les... toujours. Mmh. Donc peu à peu, j'ai découvert et vous me donniez ma méthode. Je n'ai pas lu de biographie de Caravage, ça ne m'intéresse pas, on ne sait rien d'ailleurs de lui. Mais j'ai vu ces tableaux. Ces tableaux sont extrêmement romanesques, ils nous racontent des histoires. Les personnages qu'il peint, c'était ses élèves, ses amants, tout ça. Et à travers les sujets commandés, il raconte des choses à lui, c'est évident. Donc le roman est fondé sur la lecture des tableaux.
Voilà. Un peu comme tout à l'heure, vous disiez que l'écrivain fait l'histoire, enfin, raconte l'histoire.
Oui.
Là aussi, il y a vraiment une... C'est pas une leçon d'art, mais le mot leçon, il n'est pas juste, mais il y a
non,
une ouverture sur la, une lecture des tableaux, mais une lecture artistique
oui, parce que vous
qui
savez,
est complète.
Ce qui est fascinant chez Caravage, c'est qu'il y a un double langage. Toutes les commandes venaient de l'Église à l'époque. L'Église qui avait le pouvoir et l'argent. Donc les papes, les cardinaux, quelques princes, mais surtout l'Église. Donc les sujets étaient toujours religieux. Judith Holoferne, David et Goliath, le sacrifice d'Isaac. Bon, il prend ce sujet, il le transforme en une histoire à lui. Donc on peut le lire uniquement comme un tableau de la contre-réforme religieux, et on peut le lire aussi comme une aventure personnelle. Et c'est ça que j'ai montré dans mon roman.
Magnifique invitation au voyage aussi, mais enfin on les connaît ces tableaux, mais on les revisite et on a aussi ce plaisir à découvrir soit l'artiste créateur, soit l'historien d'art comme Winckelmann sous un angle tout à fait différent qu'on ne leur supposait pas, enfin pour à moins de le savoir déjà ou d'être un peu au courant. Alors eh bien écoutez, j'invite les auditeurs à acheter, à lire bien sûr ces romans ici réunis dans Prestige et Infamie. Retrouvez ces quatre romans de Dominique Fernandez qui sont passionnants, plein d'érudition, et écrit dans une langue extraordinaire. Est-il nécessaire de le rappeler, Dominique Fernandez ? Merci.
Merci à vous.